Matière à réflexion. Le livre s'appelle La France. L'auteur, c'est Henri Heine, publié à Paris en 1857. L'intérêt du texte, c'est les troublantes ressemblances entre l'épidémie de choléra de 1932 et ce qu'on connaît actuellement.
Première partie.
Les habitants de Crépy-en-Valois connaissent bien Gérard de Nerval, ne serait-ce que parce que son nom a été donné à un collège de la ville. J'en profite d'ailleurs pour saluer les enseignants qui ont souffert dans leur chair les premières attaques de cette sale bête qui nous confine tous. Gérard de Nerval est l'un des plus grands poètes romantiques français et Sylvie est sûrement l'un des plus beaux romans jamais écrits. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Umberto Eco que vous connaissez peut-être, qui est l'auteur du Nom de la Rose. Mais je ne vais pas aujourd'hui évoquer cet ouvrage, je vais plutôt parler de l'écrivain qui a passé sa jeunesse dans notre région, à Loisy, donc, qui est un hameau de Vers-sur-le-Net, comme vous le savez, et à Mortefontaine. Après, il fait ses études au Collège Charlemagne, il fait un stage de clerc de notaire, qui ne le satisfait guère, et puis, sous la contrainte plus ou moins paternelle, il engage des études de médecine. Il n'y trouve guère d'intérêt. Cela n'empêche pas quand même, en 1832, de participer à la lutte contre le choléra qui vient d'anéantir déjà un nombre certain de Parisiens. Plus tard, il écrira d'ailleurs avec une petite pointe d'amertume. « Je fais des visites pour le choléra, comme font maintenant tous les étudiants, les médecins étant insuffisants de beaucoup pour le nombre de malades. Je vous assure que c'est une chose cruelle. » Et puis, non sans amertume, il rappelle dans une autre lettre sa participation au bureau de secours. « Je ne puis persuader personne ici, je suis un peu médecin, ayant suivi 2 ans les cours de l'école de la clinique de l'Hôtel Dieu. On ne veut pas croire que j'ai soigné des malades pendant le choléra. J'ai fait alors une centaine de visites avec ou sans toi. » L'un des amis proches de Nerval était Heinrich Heine. Cet écrivain, qui est de nationalité allemande, était à Paris pendant l'épidémie de 1832. Il en fit alors une description méticuleuse dans un article qu'il a joint par la suite à une œuvre qui est intitulée « La France ». Voici quelques extraits de cet article. Bien sûr, il ne s'agit que d'une partie de cet ouvrage. J'ai été fort troublé dans ce travail, nous dit-il, surtout par les cris horribles de mon voisin qui est mort du choléra. Un malaise plus matériel que moral m'aurait chassé de Paris comme tous les autres étrangers, mais mon meilleur ami, gravement malade, y serait demeuré seul. Je fais cette remarque simplement pour qu'on ne considère pas tout cela comme une bravade, ce séjour à Paris. Un fou seul eût pu trouver du plaisir à braver le choléra. Le choléra était un bourreau masqué qui marchait dans Paris, escorté d'une invisible guillotine ambulante. Nous serons mis tous l'un après l'autre dans le sac, me disait en soupirant mon domestique tous les matins alors qu'il m'annonçait le nombre des morts ou le trépas d'une personne de connaissance. Le mot « mettre dans le sac » n'était nullement une figure de langage. Les cercueils manquèrent bientôt et la plus grande partie des morts furent enterrés dans les sacs. Je parle donc du choléra qui règne ici actuellement en maître absolu. Sans égard ni pour le rang ni pour l'opinion, il abat des milliers de victimes. On s'était préparé avec d'autant moins de soin contre ce fléau qu'on avait reçu de Londres la nouvelle qu'il n'avait enlevé que peu d'individus. On parut même d'abord avoir pris le parti de s'en moquer. On pensa que le choléra, ainsi que toutes les autres grandes réputations, se réduiraient ici à peu de choses. Oh, il ne faut pas trop en vouloir à cet honnête choléra. J'ajoute qu'on n'avait pas pris au sérieux. Si, dans la crainte du ridicule, il eut recours à un moyen que Robespierre et Napoléon avaient trouvé efficace, et si, pour se faire respecter, il décima le peuple. Par la grande misère qui règne ici, par l'immense malpropreté qu'on y trouve ailleurs encore que dans les classes les plus pauvres, par l'irritabilité du peuple, surtout par sa légèreté sans bornes, par le manque total de disposition et de mesures de prévoyance. Le choléra devait s'étendre avec plus de promptitude et d'horreur qu'en aucun autre lieu. Son arrivée fut officiellement notifiée le 29 mars. Et comme c'était le jour de la mi-carême, qui faisait beau et un temps charmant, les Parisiens se frémoussèrent avec d'autant plus de jovialité sur les boulevards, où l'on aperçut même des masques qui, parodiant la couleur maladive et la figure défaite, raillant la plainte du choléra et la maladie elle-même. Le soir du même jour, c'est-à-dire le 29 mars, hein, les bals publics furent plus fréquentés que jamais. Les rires les plus présomptueux couvrent presque la musique éclatante. On s'échauffait beaucoup au chahut, danse peu équivoque. Le chahut, c'est une danse qui est à l'origine de ce qu'on appellera par la suite le cancan. On engloutissait à cette occasion toutes sortes de glaces et de boissons froides. Mais tout à coup, le plus sémillant des arlequins sentit trop de fraîcheur dans ses jambes, ôta son masque et découvrit à l'étonnement de tout ce monde un visage d'un bleu violet. On s'aperçut tout d'abord que ce n'était pas une plaisanterie et que les rires se turent. Et l'on conduisit bientôt plusieurs voitures de masques du bal immédiatement à l'Hôtel Dieu, hôpital central, où en arrivant, sur leur burlesque déguisement, le plus grand nombre moururent. Rien ne ressemble au trouble et à la confusion avec lesquels tous les établissements de santé furent organisés. Il se forma une commission sanitaire, on institua de toutes parts des bureaux de secours et l'ordonnance relative à la salubrité publique fut mise promptement en vigueur. Ce fut alors qu'on se heurta d'abord contre les intérêts de quelques milliers d'hommes qui regardent comme leur propriété la saleté publique. Ce sont les chiffonniers. Leur protestation ne servira à rien. Quand l'émeute des chiffonniers eut été réprimée par la force, et comme le choléra ne sévissait pas encore avec autant de fureur que le désiraient certaines gens qui espèrent sinon le triomphe de leur propre cause, du moins la ruine du gouvernement actuel, on entendit tout d'un coup le bruit que cette foule d'hommes qu'on enterrait si vite ne mourait pas de maladie, mais ils mouraient du poison. On avait, disait-on, eu l'art de répandre du poison dans tous les comestibles. Et plus ces contes étaient étranges, plus ils étaient avidement accueillis par le peuple. Tout Paris tomba dans la plus horrible angoisse de mort. On croyait voir venir la fin du monde. C'était surtout au coin des rues que se rassemblaient et délibéraient les groupes. C'était presque toujours là qu'on fouillait les hommes qui avaient l'air suspects et malheur à eux si l'on trouvait dans leur poche quelque chose d'équivoque. Le peuple se précipitait sur eux comme un animal sauvage, comme une troupe d'enragés. Beaucoup se sauvèrent, beaucoup furent arrachés au danger par l'intrépidité de la garde municipale, d'autres reçurent des blessures et des contusions dangereuses. 6 hommes furent impitoyablement massacrés. Dans la rue de Vaugirard, où l'on massacra 2 hommes qui étaient porteurs d'une poudre blanche, je vis un de ces infortunés au moment où il râlait encore et où les vieilles femmes tirèrent leurs sabots de leurs pieds pour l'en frapper sur la tête jusqu'à ce qu'il mourût. Il était entièrement nu et couvert de sang et de meurtrissures. Une femme admirablement belle, le sein découvert et les mains ensanglantées, se trouvait là. Elle donna un dernier coup de pied au cadavre quand il passa devant elle. En me voyant, elle sourit et me demanda de payer le tribut à sa douce industrie. Tout le monde a compris qu'il s'agit là d'une prostituée. Pour qu'elle fût achetée une robe de deuil, parce que sa mère venait de mourir il y a peu d'heures, du poison, bien entendu. Fausse nouvelle. Le lendemain, on apprit par les feuilles publiques que les malheureux qu'on avait si cruellement assassinés étaient tout à fait innocents. Et les poudres suspectes trouvaient entre leurs mains des chlorures ou du camphre ou quelque autre sorte de préservatif contre le choléra, et que les soi-disant empoisonnés étaient morts fort naturellement de l'épidémie régnante. Depuis ces événements, tout est redevenu tranquille. Un calme de mort plane sur toute la ville, un sérieux de pierre est empreint sur toutes les figures. Pendant plusieurs soirs, on a vu même sur les boulevards qu'un petit nombre d'hommes encore passaient-ils rapidement en tenant leurs mains ou leurs mouchoirs sur leur bouche. Les théâtres sont comme trépassés.
C'était Matière à réflexion, première partie du texte de Henri Heim, publié en 1857 et lu par Jean-Marc Vasseur.